Radio Prague, les informations.
La Banque nationale a annoncé une baisse du taux directeur. Alexandre Vondra estime que la Croatie pourrait rejoindre l'Union européenne en 2010. Le CSSD veut signer l'accord de tolérance politique avec l'Odesse avant les fêtes de Noël. La Banque centrale tchèque a annoncé une baisse de 0,5% de son taux d'intérêt à 2,25%, une baisse en ligne avec les attentes du marché. Le nouveau taux d'intérêt entrera en vigueur le 18 décembre, indique un communiqué de la banque. La Banque nationale avait déjà baissé de 0,75% son taux directeur le 6 novembre dernier pour soutenir la croissance économique et juguler l'inflation. Sur recommandation du gouverneur de la Banque nationale, le cabinet n'a pas fixé la date de l'adoption de l'euro. Ainsi, en 2009, la République tchèque n'œuvrera pas pour intégrer le mécanisme de taux de change européen MCE2. L'adoption de l'euro divise le gouvernement ainsi que la société. La Croatie pourrait être en mesure de rejoindre l'Union européenne en 2010, a estimé le vice-premier ministre tchèque aux affaires européennes, Alexandre Vondra. Je m'attends à ce que Zagreb boucle les pourparlers d'adhésion en 2009 et qu'il soit prêt pour son entrée en 2010, a-t-il déclaré dans un entretien publié par un journal autrichien ce mercredi. Vondra a précisé qu'après la Croatie, le prochain candidat à l'intégration est la Serbie, dont il espère des progrès dans les pourparlers d'adhésion dans un avenir proche. L'opposition social-démocrate souhaite que l'accord de tolérance politique avec le Parti civique-démocrate pendant les 6 mois de la présidence tchèque de l'Union européenne soit signé avant les fêtes de Noël. Le CSSD assure que cet accord ne signifie rien d'autre qu'une coopération efficace sur un bon déroulement de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne au cours du premier semestre 2009. À s'en référer au résultat d'un tout récent sondage effectué par l'Institut CVVM, si les élections législatives avaient lieu en décembre, le Parti social-démocrate obtiendrait 44,5% des suffrages. Le Parti civique-démocrate passerait en deuxième position avec 27% des suffrages par rapport au mois de novembre. L'opposition social-démocrate a affermi sa position alors que la cote de popularité de l'ODS a à nouveau baissé. Avant les prochaines fêtes de Noël, Prague reste une destination la plus prisée des touristes étrangers. C'est ce que confirment les résultats d'un sondage de l'agence gouvernementale du tourisme Czech Tourism ainsi que des agences de voyages étrangères. Parmi celles-ci, Travel Consellor, l'une des plus importantes sur le marché britannique, attribue à Prague la 5e place à l'échelle des destinations préférées. En ciel variable et des températures variant entre 1 et 5 degrés, marqueront la météo de jeudi. C'était les informations de Radio Prague présentées par Jaka Gusublova.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague. Bienvenue à l'écoute de notre émission quotidienne en français, une émission dans laquelle nous parlerons d'abord des critiques formulées mardi au Parlement européen contre le président tchèque Václav Klaus. Critiques qui ont suscité de vives réactions à Prague, même parmi ceux qui ne partagent pas forcément les opinions du chef de l'État sur l'Union européenne. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire de la fuite d'un document diplomatique, la retranscription d'une conversation entre le Premier ministre tchèque et le président français dans la presse tchèque, c'était le mois dernier. Une enquête administrative vient d'être ouverte. Et puis nous terminerons en musique. Vous entendrez le pianiste français Pierre-Arnaud Dablemont qui était en concert à Prague cette semaine. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite la plus agréable des réceptions. Le président français Nicolas Sarkozy a prononcé mardi son dernier discours en tant que représentant du pays qui vient d'assurer la présidence de l'Union européenne, discours devant les députés du Parlement européen à Strasbourg. En dehors du bilan de cette présidence, Nicolas Sarkozy a critiqué la République tchèque pour le fait que le drapeau de l'Union ne flotte pas sur tous les bâtiments publics. Les réactions des milieux officiels tchèques n'ont pas tardé. Plus de détails avec Alain Slivinski.
Le président de la République tchèque, Václav Klaus, connu pour son euroscepticisme, n'a pas échappé non plus à la critique de Nicolas Sarkozy. Celui-ci, au cours de son intervention devant les députés européens, a fait allusion à la controverse lors de la récente rencontre d'une délégation du Parlement européen avec le président tchèque à Prague. Pourtant, c'est la déclaration du président français sur l'absence du drapeau de l'Union européenne sur les bâtiments publics tchèques qui a suscité le plus de réactions, en premier lieu de la présidence de la République. Le porte-parole du chef de l'État, Radim Okhvat, a rétorqué que le siège du président, le château de Prague, représentait le symbole de l'État tchèque et non pas de l'Union européenne, et que pour cela, il n'y a aucune raison pour que le drapeau de l'Union flotte au-dessus. Le président de la République, Václav Klaus, lui-même a encore précisé à ce sujet.
Ce que fait le président Sarkozy n'est pas digne de sa fonction. Nous avons longtemps vécu dans un pays où il était obligatoire de hisser certains drapeaux. Nous sommes donc très sensibles à cette question.
Cette déclaration n'a pas du tout plu au président de la Commission européenne, José Barroso, qui a déclaré au Parlement européen que, nous citons, « si quelqu'un compare l'Union européenne à l'Union soviétique, il démontre qu'il ne comprend pas ce qu'était l'Union soviétique, ce qu'est l'Union européenne et ce qu'est la démocratie ». Lors d'une conférence de presse à Strasbourg, le vice-premier ministre chargé des affaires européennes, Alexander Vondra, s'est montré conciliant et a indiqué qu'il œuvrait pour que le drapeau de l'Union européenne flotte sur tous les bâtiments officiels pendant la présidence tchèque de l'Union. Il a cependant ajouté qu'il ne pensait pas que le succès de cette présidence dépende du nombre de ses drapeaux. Devant le Parlement européen, Nicolas Sarkozy a de nouveau complimenté le Premier ministre Mirek Topolánek, surtout pour sa position envers le traité de Lisbonne. Il a ajouté qu'il ne craignait aucunement que la présidence tchèque de l'Union soit imprévisible ou cause des dommages, comme l'insinuent certains médias français. Précisons encore que le drapeau de l'Union européenne flotte sur le bâtiment du ministère des Affaires étrangères ou du siège du gouvernement, par exemple. Par contre, il est absent au Sénat. En effet, si la loi tchèque stipule quand et comment hisser le drapeau tchèque, elle ne dit rien sur les drapeaux étrangers ou internationaux.
On reparle à Prague de la fuite d'un document diplomatique que nous avons évoqué à la fin du mois de novembre sur Radio Prague, la retranscription d'une rencontre entre la délégation française menée par Nicolas Sarkozy et la délégation tchèque menée par Mirek Topolánek, rencontre qui avait été publiée par l'hebdomadaire tchèque Reflex. Une gaffe diplomatique pour laquelle Karel Schwarzenberg, le ministre tchèque des Affaires étrangères, avait présenté ses excuses à la partie française. Mais l'affaire ne devrait pas en rester là, car le Bureau national de la sécurité, NBU, a décidé d'ouvrir une enquête administrative, comme l'indique son directeur Dušan Navratil.
Oui, je peux confirmer qu'une enquête pour acte délictueux a été ouverte concernant la fuite de l'enregistrement de l'entretien entre le Premier ministre Topolánek et le président Sarkozy, parce que le document n'a pas été classé confidentiel alors qu'il aurait dû l'être. Nous allons analyser si ce document devait réellement rester secret. Si nous parvenons à la conclusion qu'il devait l'être, alors nous infligerons une amende administrative au ministère des Affaires étrangères.
Et dans le document en question, Nicolas Sarkozy s'est forcé notamment de dissuader le chef du gouvernement tchèque de s'occuper de la nouvelle Union pour la Méditerranée en expliquant que c'était, je cite, « un travail fou ». De son côté, Mirek Topolánek tentait de convaincre la France de laisser Prague s'occuper des relations avec les pays situés à l'est de l'Union européenne. Une fuite plus qu'embarrassante pour la diplomatie tchèque qui doit assurer la présidence européenne pendant les 6 prochains mois. Zuzana Opletalova est la porte-parole du chef de la diplomatie tchèque. On l'écoute.
En ce qui concerne cette fuite, il est pratiquement impossible de trouver un coupable parce que la retranscription de la conversation a été aussi envoyée à beaucoup d'adresses extérieures au ministère. Dans tous les cas, pour le moment, le Bureau national de la sécurité travaille avec le ministère des Affaires étrangères pour son enquête administrative. Nous nous attendions à cela. Le Bureau national de la sécurité doit étudier si ce document devait être confidentiel et à quel régime de confidentialité il devait être soumis. Nous donnons évidemment toutes les réponses aux questions posées par les enquêteurs et nous ne voulons pas nous prononcer avant les conclusions de cette enquête administrative.
nemůžeme předjímat výsledek toho správního řízení.
Rappelons pour finir qu'en moins d'un mois, cela fait déjà deux documents diplomatiques qui sont publiés à Prague. Après cette fuite, en effet, c'est le président de la République lui-même qui a publié sur son site internet une retranscription de la vive altercation qu'il a eue avec une délégation du Parlement européen. On termine ces faits et événements avec un peu de musique. Ce mardi a eu lieu au Palais Palfi à Prague le récital de Pierre-Arnaud d'Ablemont, un jeune pianiste français qui étudie actuellement à Prague. Après le concert, avec au programme des sonates de Mozart et de Chopin, mais aussi des préludes de Debussy et des études d'Oana, l'élève du professeur František Maxián a expliqué au micro de Václav Richter pourquoi il avait décidé de poursuivre ses études au Conservatoire de Prague.
Quand j'étais à Paris, en fait, j'ai eu envie de bouger un petit peu parce qu'il faut voir un petit peu de pays aussi et puis faut essayer d'aller vers d'autres horizons, d'autres cultures pour pouvoir peut-être appréhender mieux les différences en fait dans la musique et toute la variété de la musique. Puis l'Europe centrale est assez riche au niveau musical, hein. Donc, et puis finalement, il y a eu cette rencontre avec František Maxián et puis j'ai décidé de venir ici.
Est-ce que vous avez trouvé à Prague un milieu favorable pour le mûrissement d'un artiste ?
En fait, j'ai pu travailler en toute tranquillité, ce qui n'est pas vraiment possible à Paris. Travailler comme j'en avais envie, être très tranquille et pouvoir me consacrer vraiment au piano. On dit que bon, à Paris, on a plus tendance à vadrouiller un peu partout, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on fait pas grand-chose. On fait beaucoup de choses, mais peu de choses bien.
Vous travaillez donc avec le professeur František Maxián. C'est qui a choisi ? C'était vous qui a choisi František Maxián, ou c'était lui qui vous a choisi ?
Ah, c'était une bonne question. En fait, on s'est choisi. Je l'ai d'abord choisi moi, et puis il y a eu un peu des points de suspension puisqu'il me connaissait pas vraiment, bon voilà, et puis on a eu quelques heures ensemble et puis il a dit bon écoute, tu deviendras mon élève, je te prends, pas de problème, voilà.
Qu'est-ce que vous donne le travail avec František Maxián?
En fait, il m'a appris à extérioriser tout ce que j'avais appris en France. Je dirais qu'il m'a appris à travailler, quoi. J'étais pas un grand travailleur, mais et avec lui, j'ai pu structurer les choses vraiment. Et puis, le conservatoire a renforcé aussi toute la base théorique aussi qui manque un peu puisqu'elle n'est pas obligatoire, hein, en France. Et tandis qu'ici, elle est obligatoire. Donc, il manquait un petit peu quelques bases théoriques en analyse ou des choses comme ça, qui maintenant me servent.
Quels sont vos auteurs préférés ?
Alors, je vais répondre avec des guillemets. Mes auteurs préférés, en ce moment. Alors, je dirais que je suis en ce moment très branché Brahms, même si je n'en joue presque pas. Très branché Brahms. Bon, Ravel est une constante. Ravel est vraiment un des compositeurs que je préfère.
Et maintenant, vous vivez et vous travaillez à Prague. N'avez-vous pas envie de vous attaquer au répertoire tchèque ?
Je me suis attaqué au répertoire tchèque. J'ai beaucoup joué Janáček, beaucoup. J'ai joué beaucoup la sonate et beaucoup dans les brumes. Finalement, ça va paraître un peu paradoxal, mais je connais assez mal, par exemple, le répertoire pour piano de Dvorak ou de Smetana. Mais Janáček, j'ai beaucoup joué en musique de chambre Martinů. Effectivement, j'aimerais venir au compositeur tchèque, mais j'ai encore cette petite barrière qui me dit bon, c'est un peu dangereux de jouer des tchèques chez les tchèques.
N'êtes-vous pas tenté par la musique de chambre ?
Bien sûr que si. C'est rigolo que vous en parliez, puisqu'il y a quelques semaines, on a démarré un trio avec des amis, donc on espère une grande carrière. Et donc le trio m'intéresse beaucoup. Oui.
Quels sont donc maintenant vos projets ? Comment imaginez-vous votre avenir ?
Bah écoutez, peut-être me concentrer encore plus sur le piano et puis achever dans une certaine mesure, bien sûr, ce que j'ai commencé, c'est-à-dire à atteindre, peut-être, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais atteindre mon idéal musical. Thank you.
C'était Pierre Arnaud d'Ablemont, un jeune pianiste français étudiant au Conservatoire de Prague. Et c'est sur la musique de Leoš Janáček que prennent fin ces faits et événements. Dans un instant, suite du programme en français avec un nouveau chapitre de l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
En cette veille de présidence tchèque de l'UE, il est nécessaire de rendre hommage à Georges de Poděbrady, roi de Bohême au XVe siècle, mais aussi auteur d'un projet détaillé d'union des puissances chrétiennes d'Europe. À cette occasion est sorti récemment un livre retraçant l'histoire de ce projet, de la Bohême jusqu'à Compostelle, aux sources de l'idée d'union européenne, aux éditions Atlantica. Nous recevons aujourd'hui Martin Nejedlý, professeur d'histoire médiévale à l'université Charles de Prague et auteur de la préface du livre. À la base du projet de Georges de Poděbrady de constituer une confédération chrétienne, on a souvent accordé une importance trop grande à la menace turque. En 1453, les Turcs ont conquis Constantinople et ils menacent désormais directement l'Europe. Le projet d'union des États européens serait donc motivé par un désir de croisade contre l'ennemi ottoman. En fait, Georges de Poděbrady insiste dans son texte plus sur la paix que sur la guerre, comme l'explique Martin Nejedlý.
Je pense que si on lit attentivement tout le texte, on s'aperçoit que la lutte contre les Turcs n'est ni le seul but, ni le but principal de son projet. Et ce qu'il visait vraiment, c'était la coexistence pacifique des nations chrétiennes, des pays chrétiens, mais je pense qu'il essayait même au-delà d'établir une base qui pourrait régler les conflits, même avec les pays non chrétiens, même avec les Turcs par exemple.
En fait, en matière de paix, le projet du roi de Bohême apparaît particulièrement précurseur, puisqu'il prévoit un arbitrage et des sanctions internationales avec possibilité d'intervention armée. L'ONU concrétisera cette pensée visionnaire 6 siècles après, mais nous reviendrons plus tard sur les aspects modernistes du projet de Poděbrady. Car le texte n'est pas dénué d'une certaine ambiguïté qui est étroitement liée au contexte de la Bohème à l'époque. Georges de Poděbrady rédige son texte en 1463. Un an auparavant, le pape Pie II avait déclaré la rupture avec le royaume de Bohême en dénonçant les compactats. Ce que Poděbrady craint donc avant tout, c'est une nouvelle croisade sous l'égide du pape des puissances chrétiennes d'Europe contre le royaume dit hérétique. Ce ne serait pas la première fois depuis les guerres hussites. Mais ce que souhaite préserver le roi, c'est aussi cette coexistence religieuse entre catholiques et hussites qui fait de la Bohême une pionnière en matière de tolérance religieuse. Écrit environ un an après la rupture pontificale, le projet de Georges de Poděbrady ne ménage pas le vicaire de Rome. Le texte suit une logique géostratégique que l'on peut résumer ainsi, alliance avec le royaume le plus puissant d'Europe, celui de France, et affaiblissement de la papauté. Et de manière explicite, Poděbrady a réorganisé la structure traditionnelle des nations de l'Occident médiéval en renommant la romaine l'italienne et en la faisant passer de la première à la troisième position. Le pouvoir pontifical est directement visé. La nation gallicane, en revanche, prend la première position.
Georges de Poděbrady était bien évidemment un politicien pragmatique, donc s'il a insisté tellement sur le rôle de Gallica, de nation Gallica, donc sur le rôle du royaume de France, c'était d'abord parce qu'il a voulu que ce projet soit adopté d'abord par le roi de France Louis XI. Je sentirais là aussi l'influence de son conseiller Antonio Marini de Grenoble qui était français. Ce qui pourrait paraître bizarre, c'est que le royaume de Bohême où la nation tchèque ne sont pas explicitement mentionnées. Le royaume de Bohême était censé être inclus dans Germania. Ce n'était pas l'Allemagne au sens actuel du terme. Si on voulait utiliser un terme un peu anachronique, c'était l'Europe centrale. Et Georges de Podiebrady espérait que le royaume de Bohême jouerait un rôle important dans cette Germania.
Une carte de l'Europe datant du XVIe siècle, que l'on doit à un certain Johannes Putsch d'Innsbruck, résume bien l'Europe que conçoit Podiebrady. L'Europe est représentée sous l'aspect d'une femme, dont la France est la tête, et la Bohême le médaillon qui orne son vêtement. On peut y lire la légende suivante. La Bohême est comme une broche pendue à la chaîne de la région rhénane, semblable à une tresse d'or à travers le Rhin et la forêt noire. Il serait pourtant faux d'analyser le projet du roi de Bohême sous l'angle du court terme uniquement, car le texte est visionnaire en ce qu'il propose une idée politique de l'Europe. Ce faisant, il proclame la fin des universalismes, celui du pape comme celui de l'empereur germanique, réduit à un roi parmi les autres.
Bien évidemment, je pense qu'on peut considérer Georges de Podiebrady comme un roi qui fait une sorte de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, mais je dirais que ce qui le différencie des autres souverains de l'époque, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire élaborer un projet d'union et de coexistence, mais qu'il a mis en place une politique volontaire et une diplomatie ambitieuse. Et là, je trouverais quelque chose de moderne, dans le sens où seulement les hommes politiques, après du 18e, 19e siècle, ont tâché de nouveau de pas seulement d'élaborer les plans, mais de les mettre en pratique.
Malgré de nombreuses ambassades et contacts entre les cours de France et de Bohême, le projet, si précisément élaboré, ne verra pas le jour. Louis XI, jouant un temps le jeu pour taquiner le pape, mais n'étant pas pour autant prêt à voir renier sa souveraineté. Car le projet va très loin et ne se limite pas à une organisation institutionnelle avec parlement et cours de justice. Il prévoit une véritable intégration, encore plus ambitieuse par certains aspects que notre Union européenne actuelle.
Ce projet était trop visionnaire que non seulement Louis XI, mais aussi ses conseillers avaient peur que ça puisse entraîner le royaume de France trop loin. Et puis, bien évidemment, l'idée qu'on trouve dans le projet, par exemple, battre la monnaie commune, faire en sorte que les États délèguent beaucoup de pouvoirs régaliens, par exemple la possibilité de déclarer la guerre. Il y avait même l'idée de contributions financières pour le fonctionnement de cette union. Il y avait l'idée de réguler les prix des denrées alimentaires. Même aujourd'hui, ça poserait beaucoup de problèmes, donc d'autant plus au XVe siècle. Georges de Podiebrady comptait sur le fait que d'autres pays seront incorporés dans cette union. Je pense quand même plutôt que peut-être comme un premier pas ou comme une première phase, il pensait plutôt à l'Europe qui s'arrêterait vers les frontières de la Pologne et de la Hongrie, qui quand même à l'époque allait beaucoup plus à l'est qu'actuellement.
Selon Martin Meyedli, le legs que doit aujourd'hui l'Europe aux idées du roi tchèque n'est pas assez reconnu. Si les textes européens le mentionnent, ce n'est qu'en tant qu'un parmi d'autres. Et d'espérer, non sans une certaine appréhension, que la présidence tchèque de l'UE y changera quelque chose. De même, les nombreux contacts entre Podiebrad et Louis XI démontrent que le socle de l'amitié franco-tchèque est solide et ancien. Thank you.
Merci à David Allon et à Martin Neyedli pour ces chapitres de l'histoire. Merci à vous de nous être fidèles. Retrouvez-nous sur Internet au www.radio.cz. Au revoir à toutes et à tous. Nasredano.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.